Je voulais juste dire qu'en fait, là, cette personne, Gérard, nous a envoyé sa présentation. Donc, je vais partager en fait ce qu'il avait préparé. Il n'est pas le seul dans ce cas, en fait, à ne pas avoir pu obtenir son visa. Ça a concerné d'autres personnes venant d'Afrique de l'Ouest. Et c'est quand même bien dommage. Donc, on le remercie quand même de nous avoir envoyé sa présentation là, pour faire connaître un peu ses travaux. Donc, je ne vais pas être spécialiste hein, du domaine, hein, mais bon. Voilà. Ça parle de l'exploitation des ressources naturelles dans une réserve de faune dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. On va parler des activités, des impacts et de la perception des acteurs sur la durabilité justement de ces ressources au sein de cette aire protégée, cette réserve de faune. Donc, il avait prévu quatre parties en introduction. Oh, pardon, hop. Donc, les aires protégées, AP, de la République démocratique du Congo sont globalement représentatives des écosystèmes de la région. C'est-à-dire qu'a priori, ils ont bien stratifié le travail et ils ont bien représenté l'ensemble. La biodiversité est riche. Donc là, ils nomment en fait quelques espèces emblématiques animales, comme l'okapi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre la girafe et le zèbre, le gorille, le paon congolais et le bonobo. Et je crois que c'est le seul endroit en Afrique où le bonobo est présent. Ces aires protégées sont convoitées par les populations locales pour différentes ressources qu'elles comptent. Une multitude de pressions. Et les plus fréquentes sont l'exploitation agricole, l'utilisation illégale du pâturage donc domestique au sein des aires protégées. Et puis l'exploitation minière artisanale, le braconnage, pour la viande de brousse, l'exploitation illégale des ressources végétales et des sources de pollution. Donc les objectifs du travail qui a été mené sur cette aire protégée, c'était d'inventorier les différentes activités liées à l'exploitation des ressources naturelles dans cette réserve de faune, de l'Omako Yokogala, qui sont en fait deux rivières qui bordent la zone, de décrire leurs impacts négatifs sur cette réserve et de déduire la perception des acteurs sur la durabilité des ressources naturelles dans cette réserve. Donc ici, vous avez, j'ai pas une carte à plus grande échelle, j'aurais pu faire l'effort de la trouver. En tout cas, vous avez au nord la rivière Yokogala et au sud la rivière Lomako. C'est un grand territoire, 3625 km², a priori une population de 438 000 habitants, et donc avec des ethnies locales, Mongon, Gombe, Ngando et des Pygmées, Batswa. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui pourraient nous en dire plus. Si vous avez des éléments, on les prendra en discussion. Et donc, en termes de méthodologie, ils ont utilisé des méthodes quantitatives et qualitatives. Les travaux ont été menés sur le terrain. Ils ont porté essentiellement sur la consultation de ressources documentaires, sur la récolte de données, avec différents types d'interviews auprès d'informateurs clés, la population locale. Donc là, par exemple, ils ont interviewé six communautés dans six villages différents qui représentaient entre 100 et 200 ménages. Et dans chacun de ces villages, en fait, ils avaient un échantillon de 30 ménages qui étaient interviewés. Et pour les questionnements, enfin pour la stratification par catégorie, donc il y avait le fait que le chef du ménage était un homme ou une femme, quel était l'âge du chef de ménage, quel était l'état civil du chef de ménage, donc union libre, divorcé, célibataire, le niveau d'instruction du chef de ménage, sans instruction, niveau primaire, niveau secondaire, l'ancienneté dans le village du chef de ménage, moins de 5 ans, entre 6 et 10 ans, au-delà de 11 ans et au-delà de 20 ans. Et puis la composition des ménages en termes de nombre de personnes qui habitaient le ménage. Donc sur les éléments qui signent en fait l'importance de cette réserve pour les populations locales environnantes. Donc c'était l'opportunité d'une source de revenus pour ces personnes. Et une autre opportunité plus générale, c'est que ça pourrait être aussi un cas d'étude spécifique pour l'étude de la biodiversité et en fait sa gestion, on va dire, durable face à des pressions extérieures. Donc, bon, on a vu ça. Les activités liées à l'exploitation des ressources, il y avait l'agriculture, la pêche, la chasse et la cueillette. Donc, sur ces quatre éléments, on va avoir des informations sur les impacts négatifs qu'elles entraînent sur les ressources naturelles de la réserve de faune. Pour ce qui concerne l'agriculture, c'est de l'agriculture itinérante sur brûlis. Et donc, le constat, c'est qu'elle contribue à la baisse de la biodiversité et provoque la perte d'éléments minéraux. Pour ce qui concerne la chasse, c'est l'activité humaine qui est la plus pratiquée. Et donc, c'est le prélèvement d'espèces en général de grande taille pour la viande de brousse, donc pour la vente ou pour l'alimentation personnelle. Donc, avec un risque de disparition, au moins localement, de certaines populations d'espèces animales. Pour ce qui concerne la pêche, facteur perturbateur de la faune piscicole, parce qu'elle se pratique toute l'année, donc elle fait un peu fi de l'écologie des espèces. Notamment, il semblerait qu'il n'y a pas de considération sur les zones de reproduction des espèces, donc avec un impact potentiellement fort sur la pérennité de ces populations aussi de poissons. Et puis, pour ce qui concerne la cueillette, ce sont donc des techniques rudimentaires qui portent atteinte au pouvoir autorégénérateur, donc au renouvellement des espèces. Donc, il semblerait pas prendre en compte la possibilité d'un prélèvement raisonné qui permette en fait, aux plantes soit de produire encore des fruits ou d'être maintenues en tant qu'espèce vivante dans le paysage. Donc, pour ce qui concerne la perception des acteurs locaux qui prélèvent en fait, les ressources dans cette aire protégée, donc 4/5 des enquêtés estiment que les ressources naturelles, en fait, ils sont bien conscients de l'impact de leur prélèvement sur ces différentes ressources et que ça a diminué considérablement avec la pression humaine. Mais ils constatent aussi que c'est la seule manière en fait, pour eux d'obtenir des revenus pour soutenir leur famille, autant en termes de revenus financiers, mais aussi de ressources pour l'alimentation. Donc, les principaux constats qui ressortent de cette étude confirment que les populations riveraines de la réserve de faune de Lumako et Kokala tirent des revenus substantiels en exploitant les ressources naturelles de la réserve, en pratiquant différentes actions entre guillemets prédatrices, l'agriculture, la chasse, la pêche et la cueillette de produits forestiers non ligneux. Elles en sont dépendantes économiquement. Donc, ils constatent effectivement, c'est ce qui était dit auparavant, que les ressources naturelles avaient diminué considérablement, que leurs actions sont néfastes sur la nature. Donc là, j'ai un élément d'entretien que je vais vous reporter, où il est dit « Nous reconnaissons que les ressources naturelles ont diminué, mais nous sommes pauvres et nous n'avons pas d'autre choix. Sans travail et aucune autre source alternative de revenus, c'est avec la chasse, la pêche, l'agriculture que nous arrivons à nous occuper de nos familles. » Donc ça nous positionne aussi, nous, face à nos objectifs de protection de la biodiversité et de faire face aux besoins humains des populations aussi locales. Et donc le dernier point qu'il avait estimé, donc, que ça reste leur unique source de revenus. Merci pour votre attention.